dire que le réseau Internet a beaucoup évolué en 20 ans est une palissade. En 1998, Internet n'existait que depuis 7 ans, ou alors 4 ans si on retient 1994 comme l'année de commercialisation du Web. Le Wi-Fi n'était pas encore implanté, il fallait se connecter avec un modem 56K sur la ligne téléphonique. Hier soir, je pense qu'on en a eu un bon exemple pendant la soirée de lecture. Ça a commencé avec le son usuel du 56K qui embarquait. Les vitesses de téléchargement étaient basses, les images se téléchargeaient une ligne à la fois. À l'époque, seulement 9% des maisons en Amérique du Nord avaient Internet, comparativement à 90% en 2017. Netscape Explorer était le principal furteur. On écrivait des courriels sur AOL ou encore sur Hotmail.com. Les principaux moteurs de recherche étaient Yahoo, Lycos ou AltaVista. Google venait à peine d'être créé. GeoCities permettait de monter ses propres pages web qui se retrouvaient groupées en fonction de quartiers, c'est-à-dire de regroupements thématiques ou commerciaux identifiés par des noms en caractère urbain. Je vous rappelle de bons et chaleureux souvenirs. Internet était essentiellement un réseau textuel et non iconique. Les communautés en ligne interagissaient par du texte sans aucune image pour égayer les propos. C'était un monde d'écrits et de textes où l'épistolaire s'imposait comme mode majeur. Pour John Perry Barlow, qui participa de tels babillards communautaires, « In the silent world, all conversation is type. To enter it, one forsakes both body and place and becomes a thing of words alone. » Et vous savez, cette phrase va revenir tout au long, en fait, de ma communication, puisque c'est au cœur de l'enjeu sur le 20 ans après. Donc, nous étions loin du Web 2.0, le Web social marqué par l'omniprésence des réseaux sociaux et d'images, ou encore du Web sémantique et du Web des objets. Les représentations qu'on se faisait du réseau étaient aussi fort différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Les dernières années ont été marquées par une posture décrite comme post-Internet, au sens où le réseau ne se conçoit plus comme un lieu distinct séparé du monde, comme le virtuel se distingue du réel, à la fin des années 80, comme le virtuel se distingue du réel, je m'excuse, à la fin des années 90, nous en étions encore à imaginer les possibles et les possibilités d'Internet. Nous avions peut-être quitté l'utopie des premiers temps, ceux de la pré-commercialisation du Web, mais le réseau ne faisait que commencer à se développer et il venait avec son lot de préconceptions. On en parlait comme d'un cyberespace, à la manière de William Gibson, dans son roman de science-fiction, Neuromancer, où il désignait un univers cybernétique de relations entre des données représentées de manière graphique. En fait, entre le cyberespace et le post-Internet, on a assisté à une banalisation du monde virtuel. Si c'est d'abord déployé comme une hétérotopie, au sens bien sûr de Foucault, un espace autre en voie d'autonomisation, proposant sa propre version du monde et de ses modes de connaissance, il en est venu au gré de ses développements à s'enchevêtrer au monde réel. La séparation initiale entre monde réel et monde virtuel, qu'on peut décrire comme un très stérile dualisme numérique, s'est estompée. En prendre compte de cette transformation de nos conceptions d'Internet et du virtuel, je vais, dans les pages qui suivent, comparer deux romans nord-américains. Je procéderai en fait à une lecture croisée de deux romans séparés par plus de 20 ans et qui mettent en jeu des versions fort contrastées du virtuel. Le premier est « As Francesca » de Martha Bayer, un roman paru en 1997 chez Broadway Books à New York. Il faut dire que le roman avait comme une première diffusion en feuilleton sur le site Hotwire, donc la version web de la revue Wire. Il faut dire que Martha Bayer était éditrice chez Wire. Le second est « De synthèse » de l'écrivaine québécoise Caroline Georges, roman paru en 2018 aux éditions Alto à Québec. Alors, ces deux romans ont en commun de jouer sur les liens complexes qui se tissent entre le virtuel et le réel. Tandis que chez Bayer, les deux univers sont en tension et se posent comme les faces inversées d'une situation polarisée qu'elles viennent exacerber, chez Georges, les deux univers se complètent et leurs multiples relations viennent dénouer une impasse. Ce qui s'oppose ouvertement dans l'un entre en résonance dans l'autre, c'est-à-dire qu'en 20 ans, notre rapport à Internet et au monde virtuel s'est transformé du tout au tout, ce que l'idée même d'un post-Internet illustre parfaitement. Je fais un petit tableau, en fait, des valeurs associées aux deux univers, aux deux imaginaires d'Internet. Voilà, ça va jouer un rôle, on va retrouver l'ensemble de ces termes-là par la suite. Allons-y. As Francesca met en scène une jeune femme, Hélène Bosch, ambitieuse et carriériste, qui travaille au sein au service du budget d'une grande firme, Butler & Skin. Elle est en voie d'obtenir une importante promotion, ce qu'elle désire ardemment. Sa vie professionnelle est en phase avec sa vie secrète, car la nuit, quand elle est de retour à la maison, Elaine ne se contente pas de regarder la télévision, elle se rend plutôt sur des forums de discussion spécialisés où elle participe, sous le pseudonyme de Francesca, à des rituels sadomasochistes. Son ascension professionnelle lumineuse est la version inversée de ses descentes nocturnes dans des pratiques sexuelles marginales. De maître, elle devient esclave sous la férule de la dominatrice Inès. Ces expériences nocturnes sont virtuelles. Elles ont lieu dans le cyberespace et se déroulent les mains sur le clavier et le regard rivé à des lignes de texte défilantes à l'écran. Mais pour imaginaire qu'elles soient, ces expériences en sont pas moins captivantes et sexuellement satisfaisantes. Le clavardage permet la réunion de deux sphères d'activité, érotico-virtuelle d'une part et technico-pratique de l'autre. Cette relation étroite apparaît dès la première description de clavardage au début du roman. Je vous la donne. At 11, I'd taken off my shoes and dimmed the lights, and at 3 past the hour, I'd logged on as Francesca. Inès wasted no time. I was already pinned up against the wall with my hands between my legs by the time my software had finished building our private screen. Your back is cold against the plaster, her words said, but your fingers are hot like oil. Alors, de multiples facteurs sont à l'œuvre dans cette courte description qui témoigne de ce type singulier d'expérience du virtuel ancré dans la technologie de la fin des années 90 qui, pour paraître maintenant périmée, n'en demeure pas moins d'une grande efficacité imaginaire. Le premier facteur qui saute aux yeux, c'est la lenteur du chargement d'interface. By the time my software had finished building our private screen. Lenteur d'autant plus exaspérante qu'elle s'oppose à l'urgence de la situation. Vient ensuite l'anonymat des partenaires, Inès, tout comme Francesca, sont des pseudonymes. L'effacement imaginaire de la distinction entre corps réel et corps imaginaire, on passe allègrement d'un corps virtuel, I was already pinned up against the wall, à un corps réel with my hands between my legs. Et par conséquent, la coprésence complémentaire de ces deux corps. L'efficacité érotique de la rencontre aussi, malgré le caractère froid, voire anti-érotique du dispositif. La puissance partagée de la charge imaginaire de la situation, car elle semble exciter les deux partenaires également. Et ultimement, donc dernier facteur, le jeu d'équivalence entre les formes énonciatives, l'écrit s'imposant comme une forme de parole. L'extrait est tout en contraste, jouant le lent contre le rapide, le froid contre le chaud, le public contre le privé, l'écrit contre l'oralité, le virtuel contre le réel, la technologie contre la sexualité. Donc, tout ça dans le petit extrait. Dans le roman, les deux univers sont nettement séparés et leurs valeurs aux antipodes les unes des autres. Les contacts sont craints comme de la peste, ce sont des mondes clos qui évoluent côte à côte, le positif de l'un étant alimenté par le négatif de l'autre, comme si le démon Maxwell y travaillait en sourdine. On va tout séparer de façon très très claire. D'ailleurs, dès que la frontière se défait, quand Hélène oublie de s'identifier sous son pseudonyme Francesca et entre le donjon à visage découvert, tout s'embrouille. Tout se défait, et l'entropie commence à gagner du terrain. La promotion qu'elle souhaite ardemment recevoir lui échappe, ses alliés l'abandonnent, elle perd tous ses charmes, son âme déraille littéralement. Cette énergie qu'elle puisait dans ses activités nocturnes et illicites se tarit. En comparaison, dans le roman de Caroline George, de synthèse, les choses se passent vraiment beaucoup plus sagement sur le mode de la routine et de l'habitude. Si As Francesca nous offrait une entrée dans le monde virtuel sur le mode de l'urgence et d'une sexualité exacerbée, de synthèse le fait sans aucune tension. Nous ne sommes pas dans le singulier, mais le général. Et je vous cite le texte que vous avez à l'écran. Chaque jour, je désinfecte mon masque et mes gants de travail. Chaque jour, j'hydrate mon visage et mes mains. Je m'étire. Je râle une barre de protéines avec un demi-litre d'eau. Je m'assure que le sol de l'atelier est propre. J'y installe mon tapis de déplacement. J'enfile le casque et les gants, puis je traverse. J'entre en réalité virtuelle et je retrouve Anouk, mon avatar composé de mèches et d'un patchwork de textures photographiques en résolution 16K qui se tient toujours là, devant moi. Sa peau semble plus réelle que la mienne, son regard plus lumineux. Nous sommes cette fois confrontés à un rituel établi, à un enchaînement d'actions dûment organisé comme un script qui se répète sans grande variation. Nous ne sommes plus dans l'urgence ou la crise, mais dans l'habitude, une manière d'être non problématique, si ce qu'on prend tout à fait 20 ans plus tard. Le monde virtuel n'est plus une menace, les lieux ne sont plus sordides ou marginaux, Internet n'apparaît pas comme le cadre d'une aventure, mais d'une pratique quotidienne, avec son espace propre et ses étapes préparatoires, où le matériel informatique tout autant que l'équipement et les livres sont inspectés. La narratrice entre en réalité virtuelle comme on pénètre dans un sanctuaire, sagement et méthodiquement. Ce n'est pas un passe-temps ou une échappatoire, voire une pratique illicite, mais une occupation avec ses principes et son éthique. Et ce qu'il y attend est un avatar, un personnage virtuel construit pour la représenter dans ce monde virtuel. On remarque aisément la distance parcourue. Francesca, le pseudo, est devenue Anouk, l'avatar. En un pseudo, on passe en avatar, c'est plus la même chose. C'est une contrepartie graphique et non seulement imaginaire, visuelle et non textuelle, structurée et non improvisée, pérenne plutôt que ponctuelle de la narratrice. Le dispositif principal n'est plus le clavier, mais le casque élégant. Avec Anouk, la narratrice ne cherche pas l'action, mais la contemplation. Elle n'entend pas s'immerger dans un monde de convulsions et de jouissances, mais de dissolution et d'extase. Elle cherche à devenir image, à ne faire qu'un avec le virtuel. Ce n'est pas une version érotisée d'elle-même qu'elle cherche au cœur d'un univers de sensations, mais une version améliorée, voire sublimée, dotée d'un regard lumineux, d'une peau parfaite et d'une existence assagie. La synthèse raconte l'histoire d'une femme qui, au moment de la maladie et de la mort de sa mère, doit faire le point sur sa propre vie et son rapport à l'écran, que ce soit celui de la télévision qui a bercé son enfance avec ses personnages attachants et ses fictions bon enfant, ou celui de l'ordinateur qu'elle utilise pour animer Anouk, son avatar. La narratrice qui a longtemps travaillé comme mannequin a fui dans le monde des images, de la mode, des versions stylisées de soi, mais faites par d'autres, photographes, maquilleurs, stylistes. Sur ses photos, elle n'était qu'un simple objet investi du regard de l'autre. Elle cherchait de cette façon à fuir sa famille dysphorique marquée par l'alcoolisme et la violence de son père. Si son histoire personnelle était insupportable, elle avait compris que le monde aseptisé de la mode et des images permettait à la protéger en créant un décalage entre sa vie familiale et son image. Mais cet écart finit par lui apparaître stérile et elle entreprend de devenir sa propre photographe. En apprenant à se faire image par elle-même, dit-elle. Elle amorce un long processus de réappropriation de soi. Elle commence par faire des autoportraits avec un Polaroid, puis avec un 35 mm reflex, un Pentax K1000, allant jusqu'à prendre 360 autoportraits par semaine. La progression se fait tout naturellement vers le numérique, qui lui donne une plus grande liberté d'action. Elle ne veut plus être une image, elle veut manipuler des images, travailler sur sa propre image et en contrôler le plus grand nombre d'aspects possibles, quitte à se dissoudre dans la représentation composée. C'est ainsi qu'apparaît Anouk, une identité transit, voire une identité flux. Alors, le numérique permet à la narratrice d'être non seulement la source de l'image, mais son principal artisan. Anouk est en fait un corps virtuel, une construction imaginaire cristallisée en une image numérique complexe, voire une figure stabilisée temporairement en une forme de flux. Cette figure, elle apprend à la composer, à la manipuler, à la transformer et à l'habiter. Elle apprend aussi, bien sûr, à s'y perdre. Alors, j'ai compris, vous avez le texte à l'écran, que je pouvais devenir une image, une véritable image indépendante de mon corps de chair. Le jour de ma seconde naissance, à travers mon avatar, j'ai vécu ce qui m'apparaît aujourd'hui comme une épiphanie. J'avais enfin traversé l'écran, j'y étais. La narratrice recherche sa propre aliénation. Elle cherche à se dissoudre dans ce corps-image qui se substitue au sien. Anouk est un corps sans organes, au sens de Deleuze, un corps malléable à souhait, un corps qui est une pure énergie car uniquement constitué d'électricité. Un corps féminin, mais je vous cite George, sans peur ni poil, une peau de lumière quasi translucide, révélant des traits délicats, une sensualité imprenable, la quintessence de la féminité. Anouk permet à la narratrice d'habiter trois espaces en même temps, trois dimensions qui se complètent. Il y a celle de son atelier, où se trouve son corps de chair. Il y a donc la deuxième dimension qui est celle de son studio virtuel, où son corps numérique sert de mannequin à des compositions post-photographiques. Et celle de sa galerie en ligne, où les compositions stabilisées sous le nom d'Anouk sont offertes au regard des internautes via leurs propres avatars. Alors, c'est son corps image. Réunis, ces trois corps constituent les bases de son identité flux. Le déplacement d'une dimension à l'autre signale une abstraction de plus en plus grande, un détachement de plus en plus complet du monde réel et de ses contraintes. La narratrice se reconnaît avant tout dans cette identité flux, sa vie rêvée, elle est là, dans cet univers de projections virtuelles et de pixels, où l'écran lui renvoie une image idéalisée, purifiée d'elle-même. Bon, ça ressemble à ça si vous êtes intéressé. Alors, George fait aussi de la post-photographie sur Second Life. Là, d'ailleurs, un site web où, enfin, il y a même certains projets qui sont facilement accessibles en ligne. Or, à l'agonie et à la mort de sa mère, puis au suicide de son père, en fait, ces deux événements la forcent à se réconcilier avec le monde sensible, à ne plus exister uniquement dans l'éther numérique, c'est le même qui utilise ce terme, mais à lier les deux mondes, le virtuel et le réel, afin d'en arriver à un nouvel équilibre. Évidemment, donc, ce qu'on voit dans le roman, c'est que le monde virtuel et le monde réel, en fait, c'est le monde virtuel qui va servir de suture, en fait, au monde réel, c'est-à-dire qu'on va se réparer de son guillemets, on va sortir du deuil de ses parents par le biais du numérique, donc par le biais, en fait, de cet anouk. Et c'est tout à fait le contraire qu'on trouve, bien sûr, dans As Francesca, 20 ans plus tôt. Dans ce roman, les plongées frénétiques et sexuellement chargées d'Hélène dans le virtuel provoquaient une très forte tension. Oui, bien sûr, le contraste des deux univers. Et quelques citations tirées du roman. Du pouvoir, en fait, de la tension entre suture et rupture. Donc, it was this, that what had for months now seemed like two disjunct, unrelated halves of my life. My sordid nighttime adventures and my seemingly sociable days were, in fact, very tightly intertwined. It dawned on me that the extent of Inès's meanness matched exactly the degree of my workplace flair. The more Inès demeaned me and the more degraded I became, the happier I was on the job. Les valeurs, donc, on le voit très clairement, sont inversement proportionnelles. Plus elle est humiliée dans sa relation avec Inès, plus elle est heureuse au travail, plus elle est rabaissée, plus elle s'élève. Les victimes de la nuit, elle devient dominante le jour. Mais alors que chez Georges, cette opposition entre le virtuel et le réel se défait, atténuée par les deuils, elle est exacerbée chez Bayer. Et l'erreur d'Hélène en est le révélateur le plus direct. I failed to sign on as Francesca and sign on instead as Elaine V. Butch. Cet acte manqué est, on l'aura compris, le début de la fin. Inès n'a pas manqué l'acte, d'ailleurs, elle le voit très rapidement, et à partir de ce lapsus, la relation prend un tour nouveau. Elle ne se contente plus, Inès, de dominer Francesca, ou donc Hélène, dans un salon de discussion privée, mais elle le fait en public, sur un babillard ouvert à tous, pour que l'humiliation soit publique et non privée, commençant ainsi à déconstruire les composants de l'adéquation initiale. Inès se sert aussi d'une ceinture pour fouetter Francesca, d'une ceinture d'un orange fluorescent qui n'est pas sans rappeler pour la narratrice sa propre ceinture en cuir orange fluo. Puis, dans un moment d'inquiétante étrangeté, Inès croise les univers, provoquant une véritable dissonance. There she said, almost coming herself, I could swear it. There she thought, you want a promotion? Maintenant, tout tourne autour de la promotion d'Hélène. Le fil de discussion publique, la ceinture orange fluo, puis la demande de promotion, les indices accumulés d'une communication entre les deux univers, le secret nocturne, l'officiel diurne. La personne qui se cache sur le pseudo d'Inès connaît, à n'en pas douter, Hélène Butch, celle par qui indéniablement le message transite. Butch en allemand voulant dire messagère. Elle partage vraisemblablement son lieu de travail, connaissant ce détail de la carrière, bien sûr, de sa soumise. Les effets sur Hélène se font vite ressentir. Son euphorie initiale laisse place à un état dépressif. Il faut dire qu'après cette dernière rencontre virtuelle, Inès disparaît et Hélène se met à la rechercher, partageant entre le désir de la retrouver et la peur de savoir qui se cache derrière ce nom. Elle passe en revue tous ses collègues à Poplar et Skin, passant de l'un à l'autre selon de micros indices, chaque fois, bien sûr, infructueux. L'absence d'Inès bouleverse sa vie, elle rate son entrevue pour sa promotion, accumule de nombreux retards dans son travail et finit par être démise de ses fonctions. À la recherche du frisson que lui procurait sa relation avec Inès, elle se rend dans un club échangiste sadomaso, elle approchera même une prostituée pour se faire frapper et malmener. On comprend qu'elle semble dans un état morbide et suicidaire, et un peu anecdotique. À la fin du roman, Hélène parviendra enfin à découvrir qui se cachait sous le pseudo d'Inès, une femme, en fait une amie de l'université qui travaille aussi chez Papa et Skin, on aura compris. Cette résolution de l'intrigue témoigne de l'état du réseau en 1997, surtout vu à l'ombre de 2018. Il est presque inconcevable maintenant que deux inconnus sous le couvert de l'anonymat dans un chatroom se connaissent en fait réellement dans la vie et travaillent dans un même espace. Je m'excuse, mais l'idée d'une telle proximité est invraisemblable et l'intrigue en souffre rétroactivement. L'Internet faisait ses débuts dans les foyers et donc il était fort possible que c'était vraiment un truc extraordinairement niché, donc possiblement deux personnes pouvaient travailler dans le même bureau très, très branché. Au moment de la rédaction du roman, dans le roman de Georges, par contre, évidemment, là, c'est là qu'on voit comment 20 ans feront toute une différence. Par contraste, le flux des likes et des emojis que reçoit la narratrice pour chacune de ses créations provient de tous les coins de la planète. Je vais vous citer le texte, puis il me reste à peu près une demi-page de texte après. J'étais fasciné par cette déroutante expérience de me retrouver face à face avec des êtres qui se situaient au même moment de l'autre côté de leur écran, au Japon, en Russie, en Iran, en Allemagne, à des dizaines de milliers les kilomètres de mon corps réel, mais qui me prenaient dans leurs bras numériques pour un hug chaleureux, une des premières animations que l'on offrait au nouveau-né. On est loin du bureau d'à côté, on l'a compris. D'ailleurs, ces internautes ne communiquent pas nécessairement par l'usage d'une langue commune, mais par des images, des émoticônes, des signes d'approbation, encore par des memes et des remakes. Le local est devenu mondial et les interactions ne suivent pas les tracés usuels, même dans leur version dysphorique. Elles se déploient en fonction de paramètres d'un réseau qui a généré ses propres codes. En conclusion, donc dans un premier temps, la réalité virtuelle produite par ce dispositif technique d'une grande nouveauté qui était l'ordinateur ouvert sur un réseau de communication, mais semblait se distinguer très très fortement de notre réalité de tous les jours. Elle apparaissait comme un lieu autre qui s'est développé en autarcie. À tout prendre, comme permet de le noter As Francesca, son effet sur la vie pouvait être nocif à partir du moment où les frontières entre le monde réel et le monde virtuel devenaient poreuses. Le monde virtuel apparaissait comme une menace dès qu'il n'était plus emprisonné dans sa bulle technologique. C'est bien ce qu'on voit comme leçon derrière, en arrière-plan de As Francesca. 20 ans plus tard, de synthèse de Roman George, même s'il partage les mêmes prémices que celui de Bayard, voire même un titre construit de la même façon, une préposition plus un substantif, As Francesca de synthèse, quand même assez étonnant, n'exploite plus le système de valeurs initiales. Le virtuel ne s'oppose plus au réel, mais au contraire, il vient à sa rescousse. C'est par son existence hautement ritualisée dans l'éther numérique que la narratrice parvient à accepter la mort de ses parents ainsi que son propre passé. La lecture croisée de ces deux romans montre bien que le processus par lequel une réalité autre a pu se déployer et comment elle s'est autonomisée en opposition au monde préexistant, puis de quelle façon ces deux sphères de vie sont parvenues à se rapprocher, à s'enchevêtrer, afin de s'entraider mutuellement sur son entrée en coalescence. Raconter l'Internet, parce que c'est le titre du colloque qui nous réunit aujourd'hui, en fait, c'est non seulement chercher à comprendre comment ponctuellement on parvient à le rendre signifiant, cet Internet, mais comment, sur une plus longue durée, ces conceptions ont pu évoluer afin de faire apparaître de nouvelles mises en récit, de nouveaux parcours signifiants. Merci.